Trace de lumière, Christian Malaplate.
Radio FM Plus, 91 FM Montpellier, présente Trace de lumière, une émission réalisée par Christian Malaplate avec Yann à la technique et l'aimable participation de Viviane Nounot. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à Albert Camus, l'homme révolté. Écrivain, philosophe et dramaturge, prix Nobel de littérature, Albert Camus est né dans un milieu très modeste, aura su transcender sa condition sociale. Le thème de la surdité, de l'existence, est le point de départ de sa pensée, et seule la révolte peut constituer une réponse à l'absurde. Il n'a d'ailleurs cessé de s'engager dans des combats tels que l'anticolonialisme. Il écrit
« Un homme révolté est avant tout un homme qui dit non. Son but doit être le rétablissement de l'ordre moral et de la liberté concrète. Pour Camus, la révolte est un droit. Elle se situe dans l'agir. Elle est la source d'espoir. »
Albert Camus est né en Algérie en 1913, près de la ville d'Annaba, l'ancienne Hippone, où officiait bien des siècles auparavant Saint-Augustin. Son père travaille dans un domaine viticole de la région d'Alger. Il meurt un an après la naissance d'Albert, touché par un éclat d'obus dès le début de la Première Guerre mondiale. Sa mère, presque sourde, illettrée, fait des ménages pour survivre et entretenir les deux enfants du couple. Albert grandit donc dans la pauvreté qui lui fait honte une fois qu'il parvient au lycée et peut comparer son train de vie avec celui de ses camarades plus fortunés. Mais il fait d'heureuses rencontres, en particulier celle de son instituteur Louis Germain, qui l'initie aux joies de la lecture et l'aide à obtenir une bourse pour la suite de ses études. Il le remerciera lorsqu'il recevra le prix Nobel dans son discours. Puis Jean Grenier, son professeur de philosophie au lycée d'Alger, auquel il dédicacera son premier livre qui lui fait découvrir Nietzsche. Il n'oubliera jamais d'où il vient et son œuvre est marquée d'un grand respect pour le monde ouvrier, les travailleurs et le peuple. Dès ses 22 ans, il adhère d'ailleurs au Parti communiste algérien, anticolonialiste, un premier engagement politique qui annonce beaucoup d'autres, mais qui seront tous unis par ce fil directeur, la défense des opprimés et l'humanisme. Son exclusion du parti 2 ans plus tard, suite à un revirement idéologique qu'il refuse, la défense de la souveraineté française sur l'Algérie, annonce peut-être également un trait de caractère significatif. Son refus des idéologies, du calcul du cynisme, et peut-être au-delà, bien sûr, pour Albert Camus.
Une revendication de liberté totale. Au contraire, la révolte fait le procès de la liberté totale. Elle conteste justement le pouvoir illimité qui autorise un supérieur à violer la frontière interdite. Loin de revendiquer une indépendance générale, le révolté veut qu'il soit reconnu, que la liberté a ses limites partout où se trouve un être humain. Le révolté exige sans doute une certaine liberté pour lui-même, mais en aucun cas, s'il est conséquent, le droit de détruire l'être et la liberté d'un autre. Il n'humilie personne. La liberté qu'il réclame, il la revendique pour tous. Celle qu'il refuse, il l'interdit à tous.
Les premiers écrits, en 1935, il rédige son premier ouvrage, « L'envers et l'endroit », qui décrit le quartier de son enfance, mais ne recueille que peu de lecteurs. Il crée avec des amis un théâtre qu'il veut engager populaire et devient rédacteur en chef d'un journal, Alger Républicain, rapidement frappé d'interdiction. Il rencontre André Malraux, dont il fait jouer les œuvres dans son théâtre. En 1940, il se marie, ce qui l'amène à quitter l'Algérie pour Paris. Il travaille un temps pour le journal Paris Soir et fonde une nouvelle revue, Rivage. Il entretient une correspondance avec André Malraux. Celui-ci, lecteur chez Gallimard, recommande la publication de L'étranger que Camus lui a fait parvenir, ainsi que Le mythe de Sisyphe. Ces deux ouvrages paraissent donc en 1942 dans la plus prestigieuse maison d'édition française, alors qu'il n'a que 22 ans. Ce sont les deux premières pièces du cycle de l'absurde que Camus complétera avec Caligula et Le malentendu. Et en 1944, il rencontre Sartre. C'est le début d'une amitié qui s'achèvera en 1952 sur une brouille restée célèbre, liée à une divergence profonde sur le combat à mener pour la liberté et le peuple. Pour Albert Camus, rien ne peut venir légitimer la terreur, pas même la révolution. La fin ne justifie pas les moyens. Aucun combat, même celui qui serait mené pour une cause juste, ne peut se fonder sur la violence. Jean-Paul Sartre la considère comme nécessaire pour que les choses changent réellement. Ainsi, Albert Camus dénoncera l'intervention soviétique à Budapest, et non Jean-Paul Sartre, qui la considère comme le prix à payer dans la lutte contre l'impérialisme. En 1947, il se lance dans la rédaction de La Peste, qui révèle d'un nouveau cycle, celui de la révolte, avec les justes et l'homme révolté. Albert Camus écrit
« Fraternité, nous devons lutter contre l'injustice, contre la servitude et la terreur, parce que ces trois fléaux sont ceux qui font régner le silence entre les hommes, qui élèvent des barrières entre eux, qui les obscurcissent l'un à l'autre, qui les empêchent de se retrouver, dans la seule valeur qui puisse les sauver de ce monde désespérant, la longue fraternité des hommes en lutte contre leur destin. »
C'est un succès littéraire qui vient récompenser le prix Nobel de littérature en 1957, obtenu un an après la publication de La Chute. Ce prix suscite des jalousies et lui attire de nombreuses critiques, de l'intelligentsia parisienne. C'est en effet, à 44 ans, le plus jeune lauréat de ce prix, après Kipling. Cela le blesse. Sa position lors de la guerre pour l'indépendance de l'Algérie restera également incomprise. En indépendance, il préfère une association, ce dont aucun des deux partis ne veut, refusant de condamner en bloc les colons français, les Pieds-Noirs, dont il faisait lui-même partie. Il n'est pas considéré comme un compagnon de lutte par les Algériens et il est pris pour un traître par les partisans de la souveraineté française. Il meurt en 1960, alors qu'il n'a que 47 ans, d'un tragique accident de la route en rentrant de Lourmarin, village de Luberon, où il s'est établi, près de Villeblevin, dans l'Yonne. Avec l'autorisation des éditions EPM, Collection Littérature, Albert Camus vous parle.
Les ruines de Tipaza, sur la côte algérienne, s'élèvent à quelques pas de la mer. Sur la ville ancienne s'est greffé un petit village de pêcheurs et de cultivateurs, où la vie est odorante. Plusieurs peuples, des dieux différents, pendant des siècles, se sont succédés là. Aujourd'hui, on suit les rues de la cité oubliée à travers des champs couverts d'arbres amers. Puis sur les coteaux qui dominent la baie, des colonnes couleur de pin remplacent les eucalyptus. Plus loin encore, sur la dernière pente déjà sableuse des collines, le tamaris et l'absinthe poussent entre des sarcophages. À la dernière pierre taillée qui se distingue à peine du rocher, commence la mer. En ce lieu, il y a près de 20 ans, j'ai passé des matinées entières à errer dans les ruines, à me chauffer contre les pierres, à respirer, à découvrir les petites roses du printemps vite effeuillées. À midi seulement, les jours d'été, je fuyais devant la vide flamboiement d'une lumière qui dévorait tout. C'était l'heure où les cigales elles-mêmes se taisaient, assommées. La nuit, parfois, je dormais les yeux ouverts sous un ciel ruisselant d'étoiles. Je vivais alors. Il y a 2 ans, je suis retourné à Tipaza après une longue absence. Ce lieu, pour moi du moins, est toujours l'un des plus beaux du monde. Mais les ruines sont maintenant entourées de barbelés et l'on ne peut y pénétrer que par les seuils autorisés. Il est interdit aussi, pour des raisons que la morale paraît-il approuve, de s'y promener la nuit. Le jour, on y rencontre un gardien assermenté. Et par hasard sans doute, le matin où j'y suis allé, il pleuvait sur toute l'étendue des ruines. Je ne peux m'empêcher de voir un symbole dans ces deux images, comme je trouve significatif que j'ai pu, il y a longtemps, fixer mon départ en Grèce pour un jour devenu célèbre depuis, le 2 septembre 1939. Je ne suis pas allé en Grèce et la guerre est venue à nous. Ces 20 ans qui séparent les ruines chaudes des barbelés, je les retrouve également en moi. J'ai été élevé d'abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse. J'ai commencé par la plénitude et par cette liberté dont Proudhon dit admirablement qu'elle est un don de la mer. Puis sont venus les barbelés, je veux dire les tyrannies, la guerre, l'insupportable haine, le temps de la révolte. Il a fallu se mettre en règle avec la nuit. La beauté du jour n'a plus été qu'un souvenir. Mais dans les pires années de notre folie, ce souvenir ne m'a jamais quitté. C'est lui qui, pour finir, m'a empêché de désespérer. Et l'on sait qu'il y a aujourd'hui plusieurs façons de désespérer, dont la plus commode consiste à trahir ses frères et consentir à ce que l'homme soit asservi. Malgré tous mes aveuglements, j'ai toujours su au contraire que les ruines de Tipaza étaient plus jeunes que nos chantiers et nos décombres. J'ai toujours su aussi que la mer existait, et c'est pourquoi j'ai vécu au milieu de ce temps mortel. De même, dans ce que je n'ose encore appeler mon œuvre, et en tout cas dans les textes qui vont suivre, il me semble qu'on peut aisément apercevoir ces deux forces, même et peut-être surtout lorsqu'elles se contrarient. Je n'ai rien renié du pays où je suis né, et cependant, j'ai voulu ne rien ignorer des servitudes du temps. Il serait trop facile d'opposer ici au doux nom de Tipaza d'autres noms plus sonores et plus cruels. Il y a pour les hommes d'aujourd'hui un chemin intérieur que je connais bien pour l'avoir parcouru dans les deux sens, et qui va des collines de l'esprit aux capitales du crime. Bien sûr, on peut toujours le refuser, s'endormir sur la colline ou se carrer dans le crime. Mais si l'on renonce à une part de ce qui est, il faut renoncer soi-même à être. Il faut donc renoncer à vivre ou à aimer autrement que par procuration. Il y a ainsi une volonté de vivre sans rien refuser de la vie, qui est la vertu que j'honore le plus en ce monde. De loin en loin, au moins, je voudrais l'avoir exercée. Peu d'époque, autant que la nôtre, après tout, ne demande qu'on se fasse égal au meilleur comme au pire. J'ai toujours souhaité justement ne rien éluder et garder exact une double mémoire. Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quels que soient mes défauts d'homme et d'écrivain, je voudrais n'avoir jamais été infidèle, ni à l'une, ni aux autres.
Le malentendu est une pièce de théâtre écrite par Albert Camus en 1943, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce contexte aride de désespoir et de guerre que la pièce est représentée pour la toute première fois en 1944, alors que la France est encore sous occupation allemande. Le malentendu est une pièce en trois actes, relativement classique dans son découpage, et dont l'écriture présente une unité de lieu et de temps. Au même titre que L'étranger en 1942 ou Caligula en 1944, Le malentendu est une œuvre littéraire d'Albert Camus placée sous le signe de l'absurde. Voici un extrait de Le malentendu de Camus, acte 2, scène 1, avec Maria Cazares et Alain Cuny. Publié en 1942, L'étranger retrace l'histoire d'un homme ordinaire, soumis à la surdité de l'existence et de la condition. Rédigé au passé, ce récit propose de suivre le parcours de Meursault, de l'annonce du décès de sa mère jusqu'à sa condamnation pour homicide, un an plus tard. Albert Camus souhaite mettre en lumière l'aspect pessimiste et absurde de la condition humaine en dépeignant un homme qui prend la vie comme elle vient, suit de ses instincts et ne s'encombre pas des injonctions sociales. Albert Camus dit un extrait de L'étranger.
Maria a raison. Cette heure est difficile. Que fait-elle? Que pense-t-elle dans sa chambre d'hôtel? Le cœur fermé, les yeux secs, toute nouée au creux d'une chaise. Les soirs de là-bas sont des promesses de bonheur, mais ici, au contraire. Allons, cette inquiétude est sans raison, il faut savoir ce que l'on veut. C'est dans cette chambre que tout sera réglé.
J'espère, monsieur, que je ne vous dérange pas. Je voudrais changer vos serviettes et votre eau.
Je croyais que cela était fait.
Non, le vieux domestique a quelquefois des distractions.
Cela n'a pas d'importance. Mais j'ose à peine vous dire que vous ne me dérangez pas.
Pourquoi?
Je ne suis pas sûr que cela soit dans nos conventions.
Vous voyez bien que vous ne pouvez pas répondre comme tout le monde, même en croyant tout concilier.
Il faut bien que je m'y habitue, laissez-moi un peu de temps.
Toute la question est là. Je regrette, monsieur, que cette chambre ne soit pas aussi confortable que vous pourriez le désirer.
Elle est particulièrement propre et cela a bien son prix. Vous l'avez d'ailleurs récemment transformée, n'est-ce pas?
Cela est vrai, comment le voyez-vous?
On a des détails.
En tout cas, bien des clients regrettent l'absence d'eau courante et l'on ne peut pas vraiment leur donner tort. Il y a longtemps aussi que nous voulions faire placer une ampoule électrique au-dessus du lit. Je suppose que ce doit être désagréable pour ceux qui lisent au lit d'être obligés de se lever pour tourner le commutateur.
En effet, je ne l'avais pas remarqué. Mais ce n'est pas un gros ennui.
Vous êtes très indulgent et nous vous en sommes reconnaissantes. Je me félicite que les nombreuses imperfections de notre auberge vous soient indifférentes et vous préoccupent moins que nous. J'en connais d'autres qu'elles auraient suffi à chasser.
Malgré nos conventions, laissez-moi vous dire que vous êtes singulière. Il me semble en effet que ce n'est pas le rôle de l'hôtelier de mettre en valeur les défectuosités de son installation. Et l'on dirait vraiment que vous cherchez à me persuader de partir.
Ce n'est pas tout à fait ma pensée. Mais il est vrai que ma mère et moi hésitons beaucoup à vous recevoir.
J'ai pu remarquer au moins que vous ne faisiez pas beaucoup pour me retenir. Mais je ne comprends pas pourquoi. Vous ne devez pas douter que je sois solvable et je ne donne pas l'impression, j'imagine, d'un homme qui a quelques méfaits à se reprocher.
Non, ce n'est pas cela. Si vous voulez le savoir, non seulement vous n'avez rien du malfaiteur, mais vous portez encore tous les airs de l'innocence. Notre raison est ailleurs. Nous devons quitter cet hôtel et depuis quelque temps nous projetions chaque jour de fermer l'établissement pour commencer nos préparatifs. Cela nous était facile, il nous vient rarement des clients. Mais c'est avec vous que nous comprenons à quel point nous avions abandonné l'idée de reprendre notre ancien métier.
Avez-vous donc le désir précis de me voir partir?
Je vous l'ai dit, nous hésitons. Et surtout, j'hésite. En fait, tout dépend de moi. mais je ne sais encore à quoi me décider.
Je ne veux pas vous être à charge, ne l'oubliez pas. Et je conformerai ma conduite à vos désirs. Je dois dire cependant que cela m'arrangerait de rester encore un ou deux jours. J'ai des affaires à mettre en ordre avant de reprendre mes voyages. Et j'espérais trouver ici la tranquillité et la paix qu'il me fallait.
Je comprends votre désir, croyez-le bien. Et si vous le voulez, j'y penserai encore. Allez-vous donc retourner au pays d'où vous venez?
Oui, s'il le faut.
C'est un beau pays, n'est-ce pas?
Oui, c'est un beau pays.
On dit que dans ces régions, il y a des plages tout à fait désertes.
C'est vrai. Rien n'y rappelle l'homme. Au petit matin, on trouve sur le sable les traces laissées par les pattes des oiseaux de mer. Ce sont les seuls signes de vie. Quant au soir...
Quant au soir, monsieur.
Ils sont bouleversants. Oui, c'est un beau pays.
J'y ai souvent pensé. Des voyageurs m'en ont parlé. J'ai lu ce que j'ai pu. Et souvent, comme aujourd'hui, au milieu de l'aigre printemps de ce pays, je pense à la mer et aux fleurs de là-bas. Et ce que j'imagine me rend aveugle à tout ce qui m'entoure.
Je comprends cela. Le printemps de là-bas vous prend à la gorge. Les fleurs éclosent par milliers au-dessus des murs blancs. Si vous vous promeniez une heure sur les collines qui entourent ma ville, vous rapporteriez dans vos vêtements l'odeur de miel des roses jaunes.
Cela est merveilleux. Ce que nous appelons le printemps ici, c'est une rose et deux bourgeons qui viennent de pousser dans le jardin du cloître. Cela suffit à remuer les hommes de mon pays. Mais leur âme ressemble à cette rose avare. Un souffle plus puissant les fanerait. Ils ont le printemps qu'ils méritent.
Vous n'êtes pas tout à fait juste, car vous avez aussi l'automne.
Mais qu'est-ce que l'automne?
Un deuxième printemps où toutes les feuilles sont comme des fleurs. Peut-être en est-il ainsi des âmes que vous verriez fleurir si seulement vous les aidiez de votre patience.
Je n'ai plus de patience en réserve pour cette Europe où l'automne a visage de printemps et le printemps odeur de misère. Mais j'imagine avec délice cet autre pays où l'été écrase tout, où les pluies d'hiver noient les villes, et où enfin les choses sont ce qu'elles sont. Pourquoi me regardez-vous ainsi?
Pardonnez-moi, mais puisqu'en somme nous venons de laisser nos conventions, je puis bien vous le dire, il me semble que pour la première fois vous venez de me tenir un langage humain.
Vous vous trompez sans doute. Et si cela a été, vous n'auriez pas de raison de vous en réjouir. Si c'est là ce que j'ai d'humain, ce n'est pas ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai d'humain, c'est ce que je désire. Et pour obtenir ce que je désire, je crois que j'écraserai tout sur mon passage.
Ce sont des violences que je peux comprendre. Et je n'ai pas lieu de m'en effrayer puisque je ne suis pas un obstacle sur votre chemin et que rien ne me pousse à m'opposer à vos désirs.
Vous n'avez pas de raison de vous y opposer, cela est sûr. Mais vous n'en avez pas non plus de vous y prêter. Et dans certains cas, cela peut tout précipiter.
Qui vous dit que je n'ai pas de raison de m'y prêter?
Le bon sens et le désir où je suis de vous tenir en dehors de mes projets.
Si je comprends bien, nous voilà revenus à nos conventions.
Oui. Et nous avons eu tort de nous en écarter, vous le voyez bien. Je vous remercie seulement de m'avoir parlé des pays que vous connaissez. Et je m'excuse de vous avoir peut-être fait perdre votre temps. Je dois dire cependant que pour ma part, ce temps n'a pas été tout à fait perdu. Il a réveillé en moi des désirs qui peut-être s'endormaient. S'il est vrai que vous teniez à rester ici, vous avez sans le savoir gagné votre cause. Car j'étais venue presque décidée à vous demander de partir. Mais vous le voyez, vous en avez appelé à ce que j'ai d'humain. Et je souhaite maintenant que vous restiez. Mon goût pour la mer et les pays du soleil finira par y gagner.
Votre langage est bien étrange. Mais je resterai si je le puis. Et si votre mère non plus n'y voit pas d'inconvénient.
Ma mère a des désirs moins forts que les miens, cela est naturel. Elle n'a donc pas les mêmes raisons que moi de souhaiter votre présence. Elle ne pense pas assez à la mer et aux plages sauvages pour admettre qu'il faille que vous restiez. C'est une raison qui ne vaut que pour moi. Mais en même temps, elle n'a pas de motif assez fort à m'opposer. Et cela suffit à régler la question.
Si je comprends bien, l'une de vous m'admettra par intérêt et l'autre par indifférence.
Que peut demander de plus un voyageur? Mais il y a du vrai dans ce que vous dites.
Il faut donc m'en réjouir. Mais peut-être admettrez-vous que tout ceci me paraît singulier. Le langage et les êtres. Cette maison est vraiment étrange.
Peut-être est-ce seulement que vous vous y conduisez de façon étrange.
Publié en 1942, L'étranger retrace l'histoire d'un homme ordinaire, soumis à la surdité de l'existence de la condition. Rédigé au passé, ce récit propose de suivre le parcours de Meursault, de l'annonce du décès de sa mère jusqu'à sa condamnation pour homicide un an plus tard. Albert Camus souhaite mettre en lumière l'aspect pessimiste et assuré de la condition humaine en dépeignant un homme qui prend la vie comme elle vient, suit ses instincts et ne s'encombre pas des injonctions sociales. Camus dit un extrait de L'étranger.
Même sur un banc d'accusés, il est toujours intéressant d'entendre parler de soi. Pendant les plaidoiries du procureur et de mon avocat, je peux dire qu'on a beaucoup parlé de moi, et peut-être plus de moi que de mon crime. Étaient-elles si différentes, d'ailleurs, ces plaidoiries? L'avocat levait les bras et plaidait coupable, mais avec excuse. Le procureur tendait ses mains et dénonçait la culpabilité, mais sans excuse. Celui-ci s'est levé le premier et s'est mis à parler de mon âme. Il disait qu'il s'était penché sur elle et qu'il n'avait rien trouvé, messieurs les jurés. Il disait qu'à la vérité, je n'en avais point d'âme, et que rien d'humain et pas un des principes moraux qui gardent le cœur des hommes ne m'était accessible. Sans doute, ajoutait-il, nous ne saurions le lui reprocher, ce qu'il ne saurait acquérir. Nous ne pouvons nous plaindre qu'il en manque. Mais quand il s'agit de cette cour, la vertu toute négative de la tolérance doit se muer en celle moins facile, mais plus élevée, de la justice. Surtout lorsque le vide du cœur tel qu'on le découvre chez cet homme devient un gouffre où la société peut succomber. C'est alors qu'il a parlé de mon attitude envers maman. Il a répété ce qu'il avait dit pendant les débats, mais il a été beaucoup plus long que lorsqu'il parlait de mon crime, si long même que finalement je n'ai plus senti que la chaleur de cette matinée. Jusqu'au moment du moins où l'avocat général s'est arrêté, et après un moment de silence, a repris d'une voix très basse et très pénétrée. Cette même cour, messieurs, va juger demain le plus abominable des forfaits, le meurtre d'un père. Il osait espérer que la justice des hommes punirait sans faiblesse, mais il ne craignait pas de le dire. L'horreur que lui inspirait ce crime le cédait presque à celle qu'il ressentait devant mon insensibilité. Toujours selon lui, un homme qui tuait moralement sa mère se retranchait de la société, au même titre que celui qui portait une main meurtrière sur l'auteur de ses jours. Dans tous les cas, le premier préparait les actes du second, il les annonçait en quelque sorte, et il les légitimait. « J'en suis persuadé, messieurs, a-t-il ajouté en élevant la voix, vous ne trouverez pas ma pensée trop audacieuse, si je dis que l'homme qui est assis sur ce banc est coupable aussi du meurtre que cette cour devra juger demain, il devra être puni en conséquence. » Ici, le procureur a essuyé son visage brillant de sueur. Il a dit enfin que son devoir était douloureux, mais qu'il l'accomplirait fermement. Il a déclaré que je n'avais rien à faire avec une société dont je méconnaissais les règles les plus essentielles, et que je ne pouvais pas en appeler à ce cœur humain dont j'ignorais les réactions élémentaires. « Je vous demande la tête de cet homme, a-t-il dit, et c'est le cœur léger que je vous la demande. Car s'il m'est arrivé au cours de ma déjà longue carrière de réclamer des peines capitales, jamais autant qu'aujourd'hui, je n'ai senti ce pénible devoir compensé, balancé, éclairé par la conscience d'un commandement impérieux et sacré et par l'horreur que je ressens devant un visage d'homme où je ne lis rien que de monstrueux. » Quand le procureur s'est rassis, il y a eu un moment de silence assez long. Moi, j'étais étourdi de chaleur et d'étonnement. Le président a toussé un peu et, sur un ton très bas, il m'a demandé si je n'avais rien à ajouter. Je me suis levé et, comme j'avais envie de parler, j'ai dit, un peu au hasard d'ailleurs, que je n'avais pas eu l'intention de tuer l'Arabe. Le président a répondu que c'était une affirmation, que jusqu'ici il saisissait mal mon système de défense et qu'il serait heureux, avant d'entendre mon avocat, de me faire préciser les motifs qui avaient inspiré mon acte. J'ai dit rapidement, en mêlant un peu les mots et en me rendant compte de mon ridicule, que c'était à cause du soleil. Il y a eu des rires dans la salle. Mon avocat a haussé les épaules et tout de suite après on lui a donné la parole, mais il a déclaré qu'il était tard, qu'il en avait pour plusieurs heures et qu'il demandait le renvoi l'après-midi. La cour y a consenti. L'après-midi, les grands ventilateurs brassaient toujours l'air épais de la salle, et les petits éventails multicolores des jurés s'agitaient tous dans le même sens. La plaidoirie de mon avocat me semblait ne devoir jamais finir. À un moment donné, cependant, je l'ai écouté parce qu'il disait « Il est vrai que j'ai tué ». Puis il a continué sur ce ton, disant « je » chaque fois qu'il parlait de moi. J'étais très étonné. Je me suis penché vers un gendarme et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit de me taire. Et après un moment, il a ajouté « Tous les avocats font ça ». Moi, j'ai pensé que c'était m'écarter encore de l'affaire, me réduire à zéro et, en un certain sens, se substituer à moi. Mais je crois que j'étais déjà très loin de cette salle d'audience. D'ailleurs, mon avocat m'a semblé ridicule. Il a plaidé la provocation très rapidement et puis lui aussi a parlé de mon âme. Mais il m'a paru qu'il avait beaucoup moins de talent que le procureur. Moi aussi, a-t-il dit, je me suis penché sur cette âme, mais contrairement à l'éminent représentant du ministère public, j'ai trouvé quelque chose et je puis dire que j'y ai lu à livre ouvert. Il y avait lu que j'étais un honnête homme, un travailleur régulier, infatigable, fidèle à la maison qui m'employait, aimé de tous et compatissant aux misères d'autrui. Pour lui, j'étais un fils modèle qui avait soutenu sa mère aussi longtemps qu'il l'avait pu. Finalement, j'avais espéré qu'une maison de retraite donnerait à la vieille femme le confort que mes moyens ne me permettaient pas de lui procurer. Seulement, il n'a pas parlé de l'enterrement et j'ai senti que cela manquait dans sa plaidoirie. Mais à cause de toutes ces longues phrases, de toutes ces journées et ces heures interminables pendant lesquelles on avait parlé de mon âme, j'ai eu l'impression que tout devenait comme une eau incolore où je trouvais le vertige. À la fin, je me souviens seulement que de la rue et à travers tout l'espace des salles et des prétoires, pendant que mon avocat continuait à parler, la trompette d'un marchand de glace a résonné jusqu'à moi. J'ai été assailli des souvenirs d'une vie qui ne m'appartenait plus, mais où j'avais trouvé les plus pauvres et les plus tenaces de mes joies. Des odeurs d'été, le quartier que j'aimais, un certain ciel du soir, le rire et les robes de Marie. Tout ce que je faisais d'inutile en ce lieu m'est alors remonté à la gorge, et je n'ai eu qu'une hâte, c'est qu'on en finisse, et que je retrouve ma cellule avec le sommeil. C'est à peine si j'ai entendu mon avocat s'écrier pour finir que le juré ne voudrait pas envoyer à la mort un travailleur honnête perdu par une minute d'égarement et demander les circonstances atténuantes pour un crime dont je traînais déjà comme le plus sûr de mes châtiments, le remords éternel. La cour a suspendu l'audience et l'avocat s'est assis d'un air épuisé. Mais ses collègues sont venus vers lui pour lui serrer la main. J'ai entendu « Magnifique, mon cher !» L'un d'eux m'a même pris à témoin. « Hein ?» m'a-t-il dit. J'ai acquiescé. Mais mon compliment n'était pas bien sincère parce que j'étais trop fatigué. Pourtant, l'heure déclinait au dehors et la chaleur était moins forte. Aux quelques bruits de rue que j'entendais, je devinais la douceur du soir. Nous étions là, tous, à attendre. Et ce qu'ensemble nous attendions ne concernait que moi. J'ai encore regardé la salle. Tout était dans le même état que le premier jour. J'ai rencontré le regard du journaliste à la veste grise. Cela m'a donné à penser que je n'avais pas cherché Marie du regard pendant tout le procès. Je ne l'avais pas oublié, mais j'avais trop à faire. Je l'ai vue, entre Céleste et Raymond. Elle m'a fait un petit signe comme si elle disait « Enfin !» Et j'ai vu son visage un peu anxieux qui souriait. Mais je sentais mon cœur fermé, et je n'ai même pas pu répondre à son sourire. La cour est revenue. Très vite, on a lu au juré une série de questions. J'ai entendu « coupable de meurtre, provocation, circonstances atténuantes ». Les jurés sont sortis, et l'on m'a emmené dans la petite pièce où j'avais déjà attendu. Mon avocat est venu me rejoindre. Il était très volubile et m'a parlé avec plus de confiance et de cordialité qu'il ne l'avait jamais fait. Il pensait que tout irait bien et que je m'en tirerais avec quelques années de prison ou de bagne. Je lui ai demandé s'il y avait des chances de cassation en cas de jugement défavorable. Il m'a dit que non. Sa tactique avait été de ne pas déposer de conclusion pour ne pas indisposer le jury. Il m'a expliqué qu'on ne cassait pas un jugement comme cela, pour rien. Cela m'a paru évident et je me suis rendu à ses raisons. À considérer froidement la chose, c'était tout à fait naturel. Dans le cas contraire, il y aurait trop de paperasses inutiles. De toute façon, m'a dit mon avocat, il y a le pourvoi. mais je suis persuadé que l'issue sera favorable. Nous avons attendu très longtemps, près de 3/4 d'heure, je crois. Au bout de ce temps, une sonnerie a retenti. Mon avocat m'a quitté en disant « Le président du jury va lire les réponses, on ne vous fera entrer que pour l'énoncé du jugement. » Des portes ont claqué. Des gens couraient dans des escaliers dont je ne savais pas s'ils étaient proches ou éloignés. Puis j'ai entendu une voix sourde lire quelque chose dans la salle. Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi. Le silence et cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste avait détourné ses yeux. Je n'ai pas regardé du côté de Marie. Je n'en ai pas eu le temps parce que le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français. Il m'a semblé alors reconnaître le sentiment que je lisais sur tous les visages. Je crois bien que c'était de la considération. Les gendarmes étaient très doux avec moi. L'avocat a posé sa main sur mon poignet. Je ne pensais plus à rien. Mais le président m'a demandé si je n'avais rien à ajouter. J'ai réfléchi. J'ai dit non. C'est alors qu'on m'a emmené.
D'Albert Camus, voici Les Amandiers, texte dit par Serge Reggiani.
Savez-vous, disait Napoléon à Fontane, ce que j'admire le plus au monde, c'est l'impuissance de la force à fonder quelque chose. Il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit. À la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. Les conquérants, on le voit, sont quelquefois mélancoliques. Il faut bien payer un peu le prix de tant de vaines gloires. Mais ce qui était vrai il y a 100 ans pour le sabre ne l'est plus autant aujourd'hui pour le tank et la bombe atomique. Les conquérants ont marqué des points et le morne silence des lieux sans esprit s'est établi pendant des années sur une Europe déchirée. Au temps des hideuses guerres des Flandres, les peintres hollandais pouvaient peut-être peindre les coques de leurs basse-cour. On a oublié de même la guerre de 100 ans et cependant les oraisons des mystiques silésiens habitent encore quelques cœurs. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Le peintre et le moine sont mobilisés. Nous sommes solidaires de ce monde. L'esprit a perdu cette royale assurance qu'un conquérant savait lui reconnaître. Il s'épuise maintenant à maudire la force, faute de savoir la maîtriser. De bonnes âmes vont disant que cela est un mal. Nous ne savons pas si cela est un mal, mais nous savons que cela est. La conclusion est qu'il faut s'en arranger. Il suffit alors de connaître ce que nous voulons. Et ce que nous voulons justement, c'est ne plus jamais nous incliner devant le sabre, ne plus jamais donner raison à la force qui ne se met pas au service de l'esprit. C'est une tâche, il est vrai, qui n'a pas de fin, mais nous sommes là pour la continuer. Je ne crois pas assez à la raison pour souscrire au progrès, ni à aucune philosophie de l'histoire. Je crois du moins que les hommes n'ont jamais cessé d'avancer dans la conscience qu'ils prenaient de leur destin. Nous n'avons pas surmonté notre condition, et cependant nous la connaissons mieux. Nous savons que nous sommes dans la contradiction, mais que nous devons refuser la contradiction et faire ce qu'il faut pour la réduire. Notre tâche d'homme est de trouver les quelques formules qui apaiseront l'angoisse infinie des âmes libres. Nous avons à réunir ce qui se déchire, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste, le bonheur significatif pour des peuples empoisonnés par le malheur du siècle. Naturellement, c'est une tâche surhumaine, mais on appelle surhumaines les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir. Voilà tout. Sachons donc ce que nous voulons. Restons fermes sur l'esprit, même si la force prend pour nous réduire le visage d'une idée ou du confort. La première chose est de ne pas désespérer. N'écoutons pas trop ceux qui crient à la fin du monde. Les civilisations ne meurent pas si aisément. Même si ce monde devait crouler, ce serait après d'autres. Il est bien vrai que nous sommes dans une époque tragique, mais trop de gens confondent le tragique et le désespoir. Le tragique, disait Lawrence, devrait être comme un grand coup de pied donné au malheur. Voilà une pensée saine et immédiatement applicable. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui méritent ce coup de pied. Quand j'habitais Alger, je patientais toujours dans l'hiver, parce que je savais qu'en une nuit, une seule nuit froide et pure de février, les amandiers de la vallée des consuls se couvriraient de fleurs blanches. Je m'émerveillais de voir ensuite cette neige fragile résister à toutes les pluies et au vent de la mer. Chaque année pourtant, elle persistait, juste ce qu'il fallait pour préparer le fruit. Ce n'est pas là un symbole. Nous ne gagnerons pas notre bonheur avec des symboles. Il y faut plus de sérieux. Je veux dire seulement que parfois, quand le poids de la vie devient trop lourd dans cette Europe encore toute pleine de son malheur, je me retourne vers ces pays éclatants où tant de forces sont encore intactes. Je les connais trop pour ne pas savoir qu'ils sont la terre d'élection où la contemplation et le courage peuvent s'équilibrer. La méditation de leur exemple m'enseigne alors que si l'on veut sauver l'esprit, il faut ignorer ses vertus gémissantes et exalter ses forces de conquête. Ce monde est empoisonné de malheur et semble s'y complaire. Il est tout entier livré à ce mal que Nietzsche appelait l'esprit de lourdeur. N'y prêtons pas la main. Il est vain de pleurer sur l'esprit. Il suffit de travailler pour lui. Mais où sont les vertus conquérantes de l'esprit? Le même Nietzsche les a énumérées comme les ennemis mortels de l'esprit de lourdeur. Pour lui, ce sont la force de caractère, le goût, le monde, le bonheur classique, la dure fierté, la froide frugalité du sage. Ces vertus, plus que jamais, sont nécessaires. Chacun peut choisir celle qui lui convient. Devant l'énormité de la partie engagée, qu'on n'oublie pas, en tout cas, la force de caractère. Je ne parle pas de celle qui s'accompagne sur les estrades électorales de froncements de sourcils et de menaces, mais de celle qui résiste à tous les vents de la mer par la vertu de la blancheur et de la sève. C'est elle qui, dans l'hiver du monde, préparera le fruit.
À propos de la peste et de l'homme révolté, voici un peu la description de ces deux romans et de la pensée, justement, de Camus. Ensuite, ça sera suivi « Vous étiez un monde » de Christine Guinard aux éditions Gallimard.
La peste, 1947 de Camus, est un roman, se présentant sous la forme d'une chronique du docteur Rieux. Il retrace les événements qui se sont déroulés à Oran lors d'une épidémie de peste qui a amené les autorités à mettre la ville en quarantaine. Allégorie de la guerre et du mal, la peste révèle la lâcheté des uns et le courage des autres. Lucide sur la nature humaine, Camus n'en insiste pas moins sur les valeurs de solidarité et de générosité qui guident désormais les héros ordinaires d'un monde sans Dieu.
L'homme révolté.
L'homme révolté, 1951 de Camus, est un essai philosophique placé sous le signe de Prométhée qui se révolte contre les dieux en leur volant le feu pour le donner aux hommes. La révolte est définie comme un refus individuel de l'injustice qui s'effectue au nom de valeurs collectives. L'essai affirme que l'esprit généreux de la révolte a été historiquement trahi dans la Révolution, particulièrement dans le système soviétique. Une longue et douloureuse polémique, avec notamment André Breton et Jean-Paul Sartre, suivra la publication de l'essai.
Et voici une présentation. Vous étiez un monde de Christine Guinard aux éditions Gallimard.
Dans sa poésie, on retrouve les souvenirs anciens, l'avenir incertain, l'écriture qui dit son questionnement et creuse sa place. La place où pourrait se déployer ce monde évoqué dans le titre. Plus que d'un recueil de poèmes, il s'agit là d'un livre de poésie. Quelque chose est raconté, c'est flagrant. Une histoire grave, frappante, comme des images puisées dans le vif de l'existence et du réel, un drame qui couve et que des mots à la fois bruts et ductiles découvrent au fil des pages, comme si la réalité pouvait dicter sa loi au langage. Surprenante, âpre et forte pourtant, cette voix réussit à communiquer dans la trame de cette histoire un sentiment puissant d'affranchissement, car l'auteur a su insuffler dans la matière de ses textes une énergie de marée, de magma, l'animer par des mouvements palpitants qui représentent si bien la vie.
Voici quelques poèmes extraits de ce recueil « Vous étiez un monde » de Christine Guinard aux éditions Gallimard.
On aurait pu voir la pluie tomber 100 fois. La pluie abreuve notre sol, descend vers la langue des plantes sèches, roi de la terre, et nous abreuve aussi. C'est l'eau qui irrigue mes veines, et moi, de feu, de vent et d'eau, je tournoierai. C'était l'automne. On n'avait pas pensé à la lumière qui nous abandonnait. On était réduits à l'état de petites coques rassemblées. La terre réverbérait l'humus et la fougère au bout du bois. J'avance sans savoir. La lumière a filé, sous les feuilles en tornade, les feuilles mêlées de glaise. Elle s'infiltre, réduite à sa plus faible intensité. Il fait déjà nuit. La terre mouillée se dérobe sous le poids des déambulations. On retarde le moment de savoir. Je ne sais rien, et le chemin sous les bois nous conduit plus loin, où le temps poursuit la lumière en fuite. C'est la nuit depuis le matin, la nuit du bois, humide et douce, l'univers poreux des amas de feuilles et d'herbes. Je suis le chemin, au loin le lac, au loin le soir qui vient. Il suffit de suivre le chemin, je me détourne, on oublie la lumière, la pulsation marécageuse des arbres au bout du bois. Des touffes de feuilles sur l'eau. La nuit descend sur les contes, les elfes et les clochettes. Le bois se referme, on a encore le temps. Se laisser couler sous la masse, des flocons sans gêne m'arrivent entre le sol et eux. Il m'a semblé lutter pour ne pas m'allonger dans l'absence. La confusion du blanc sur gris sur blanc, la ouate de la mémoire éteinte. Et pourtant non, tout a pris forme. La neige entêtée n'en finit pas d'assourdir l'écho des pas fuyants. Un froid de neige que rien ne réchauffe. Il fera jour demain.
Les lundis de 11h à 12h sur Radio FM plus 91 FM Montpellier, Trace de Lumière, rediffusion tous les lundis de 20h à 21h. Vous pouvez écouter des émissions déjà archivées en allant sur le site www.radiofmplus.org. Trace de Lumière. Le prochain rendez-vous de Trace de Lumière sera consacré à Guillaume Apollinaire, le guetteur mélancolique. Bonne semaine à toutes et à tous.